Le dialogue ne peut pas se dérouler suivant une démarche exclusivement horizontale, restant limitée à la rencontre, à l'échange des points de vue, ou même des dons propres à chacune des communautés. Il tente aussi et surtout à avoir une dimension verticale qui l'oriente vers celui qui, rédempteur du monde et seigneur de l'histoire, est notre réconciliation. La dimension verticale du dialogue réside dans la reconnaissance commune et réciproque de notre condition d'homme et de femme qui ont péché. Et c'est ce dialogue qui ouvre pour les frères vivant dans des communautés qui ne sont pas en pleine communion entre elles, l'espace intérieur où le Christ, source de l'unité de l'Église, peut agir efficacement avec toute la puissance de son paraclet. Donc Jean-Paul II s'est converti au dialogue. Je me suis donc posé la question de savoir qu'est-ce que ça représentait. Je pense, mais est-ce que mon analyse est juste, que c'est un changement complet d'attitude. Autrefois, l'Église combattait les dissidents, les hérétiques. Elle les a même brûlés. Et nous connaissons bien les persécutions qui se sont produites dans notre pays. Après ça, quand le mouvement œcuménique est paru, tu nous l'as rappelé hier, il a été condamné par l'Église catholique et contré le plus possible. Et puis maintenant, il y a une conversion de l'Église catholique au dialogue œcuménique, c'est-à-dire, me semble-t-il, l'acceptation pour l'évêque de Rome et pour les principaux de l'Église catholique de l'existence d'autres églises, comme tu nous l'as dit, qui sont aussi l'Église de Jésus, mais qui ne sont pas, au fond, sous le toit de l'Église catholique. Et il engage un dialogue. Alors, je crois que le pape est vraiment très franc dans son livre. Lisez-le, il ne cache absolument pas ce qu'il pense, ni ses convictions, ni ses buts. Je crois donc que maintenant, il cherche à s'ouvrir le plus possible aux autres églises, et qu'au fond, on peut imaginer, sans être doté d'une imagination nécessairement délirante, qu'en fin de compte, nous pourrions nous retrouver sous le toit de l'Église romaine, ou disons sous la houlette paternelle, distante, pleine de compréhension de l'évêque de Rome, qui ne nous demanderait pas du tout, par exemple, à nous, Église locale, du tabernacle, de renoncer à notre confession de foi, de renoncer à ce que nous croyons du tout. Mais nous reconnaîtrions l'évêque de Rome, le fédérateur de l'unité, celui qui la représente le mieux. Je continue un petit peu, si vous le permettez. Alors, je ne sais pas si je retrouverai la page. À un moment donné, le pape dit qu'il faut, au fond, trouver la formule. Il utilise ce mot-là. Je ne sais pas si tu le retrouveras, Henri. Enfin, peu importe. Alors, il dit, page 40...
J'ai pas la même pagination que toi, donc si tu te donnes les numéros des paragraphes, ce sera...
Oui, alors c'est dans le paragraphe 30 et 31. On peut affirmer dans une ardente action de grâce à l'esprit de vérité que le Concile Vatican II a été un moment béni, etc. Par ailleurs, la présence de nombreux observateurs de différentes églises et communautés ecclésiales, leur engagement profond dans l'événement conciliaire, les nombreuses rencontres et les prières communes que le concile a rendues possibles, tout cela a contribué à réaliser concrètement les conditions pour dialoguer ensemble. On en arrive donc au dialogue. Paragraphe 31, les structures locales du dialogue. Alors, il dit ceci. Le dialogue n'a pas seulement été entrepris, il est devenu une nécessité explicite, une des priorités de l'Église. Par suite, la technique nécessaire à la conduite du dialogue a été affinée et cela a favorisé en même temps l'esprit de dialogue. Il s'agit d'abord ici du dialogue entre les chrétiens des diverses églises ou communautés menées, ouvrez les guillemets, menées entre experts convenablement informés, qui permet à chacun d'expliquer plus à fond la doctrine de sa communauté et d'en présenter de façon claire les traits caractéristiques. Mais il convient que l'ensemble des fidèles connaissent la méthode qui permet le dialogue. Euh, Alors, je ne voudrais pas allonger trop, mais j'ai un petit peu résumé ça sur la dernière page du bouquin en écrivant qu'il y a au fond différents pas à faire, pratiquement, concrètement. Parce que, théologiquement, il n'est pas encore possible de vraiment être d'accord et d'être unis. Mais cela n'a pas grande importance. Il convient de faire des choses ensemble. Il convient d'être ensemble, il convient de dialoguer. Et dialoguer est déjà un signe écuménique, un acte écuménique. Cela donc semblerait exclure la possibilité que tu évoquais ce matin, Henri, d'un dialogue à part que nous pourrions mener. De l'autre côté, le dialogue n'est pas entendu de cette manière-là, comme le fait de rendre compte tranquillement de notre foi dans le Seigneur Jésus, quand on nous en demande raison, mais c'est déjà une sorte d'acquiescement, c'est à voir, c'est manifester qu'il y a un consensus, c'est déjà entrer en pratique dans l'écuménisme, le mettre en action. Alors il semble qu'il y ait différents paliers. Le premier auquel le pape accorde une très grande importance, c'est prier ensemble. Donc la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui est proche dans ses dates, je ne sais pas pourquoi, le hasard peut-être fait bien les choses, et moi j'ai l'esprit trop soupçonneux, mais elle est proche de la date de la réunion de prière universelle des chrétiens. Il faut prier ensemble. Et il y a des églises évangéliques que nous connaissons bien, qui sont des églises sœurs, qui sont sur la même base doctrinale que nous, qui ont participé à ces réunions de prière pour l'unité des chrétiens, dans leurs locaux ou dans des locaux d'église catholique. Alors évidemment, moi je me pose quand même des questions là-dessus. Mais il y a d'abord prier ensemble, et il pense que c'est très très important, il le dit, il explique, le pape, que ça nous soude, ça nous rapproche, le fait d'être ensemble à genoux devant le Seigneur, ça nous rapproche et ça opère ce rapprochement des cœurs en Christ, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. On n'a pas parlé, et on ne parle pas de ce qui nous sépare. Ensuite, on nous propose de faire des choses ensemble. Et les grandes choses qu'on nous propose maintenant, c'est l'évangélisation du monde. C'est d'autant plus pressant qu'il y a une dérive éthique, une dérive morale extraordinaire dans notre société, et que souvent nous sommes sur la même longueur d'onde que l'Église catholique et que le pape, bien souvent, on est d'accord avec lui. Moi, je me sens d'accord avec lui. Je dis, c'est bien, il est courageux, comme l'a rappelé notre frère ce matin. Alors, faire des choses ensemble, et en particulier, annoncer Christ ensemble. C'est le titre de ce livre qui a fait un tabac, comme dit notre frère Christian, rendre témoignage au Christ. Hein? Mais on nous propose ensemble, c'est le mot ensemble qui revient tout le temps. Pour la doctrine, il s'agit de trouver la formule qui dépasse les oppositions. Alors, d'un côté, il y a Écriture sainte et tradition, c'est le côté de l'Église catholique, et puis du côté des évangéliques et des protestants héritiers de la Réforme, c'est l'Écriture seule. Après ça, peut-être un quatrième pas, dont il est beaucoup question aussi, c'est la question de la reconnaissance des baptêmes. Je crois que si on cédait là-dessus, alors ce serait on serait emporté par le flot. Alors, je me demande vraiment dans quelle mesure il est possible d'avoir ce dialogue, puisque au fond, il est faussé. Je citerai une dernière chose. Si j'arrive à retrouver ça, et après ça, j'en aurai fini. Ah oui. Il y a plusieurs choses. Sur le plan théologique, j'ai entendu récemment en fréquence protestante, c'était le samedi 29 juin, mais j'ai pris le train en marche malheureusement, ils ont discuté, il y avait le pasteur Flanerstiersen, je ne sais pas si tu le connais.
Le pasteur de Versailles.
Oui, c'est ça, le pasteur de Versailles. C'est un pasteur d'église réformée, l'église luthérienne, je ne sais pas.
L'église réformée.
Il est
danois.
Oui.
Il a fait un doctorat en théologie en allemand.
Alors, la discussion portait entre autres sur ce qui est séparateur. au point de vue théologique. Alors, il faisait observer que la notion de ce qui est séparateur n'est pas immuable. Alors, je ne sais pas si là nous ne retrouvons pas les thèses du père Sesboué qui a participé au dialogue, enfin au bouquin là, que je viens de montrer, rendre témoignage au Christ ensemble. Le père Sesboué, lui, parle des dynamiques. Au moment de la réformation, nous étions dans une dynamique de rupture. Donc c'est un mouvement sociologique qui affecte les sociétés à une époque donnée. On était dans une dynamique de rupture. Donc quand on est dans cette dynamique-là, on tend à majorer les différences, à les grossir. D'une aiguille, on fait une fourche, en quelque sorte. Maintenant, par la grâce de l'Esprit, je vous le rappelle, car le mouvement œcuménique est reconnu comme étant, on nous l'a rappelé hier, une action du Saint-Esprit, par la grâce du Saint-Esprit, nous sommes maintenant dans une dynamique de réconciliation, de retrouvailles, dans laquelle il convient en quelque sorte de remettre à leur juste place, qui est de second rang, les choses qui nous séparent, qui nous divisent. Donc, ce qui est séparateur n'est pas immuable. Alors, définition de ce qui est séparateur. C'est ce qui est contre la communion. Alors, la communion, on nous l'explique, se fait à trois niveaux. D'abord, au niveau existentiel de chacun d'entre nous, c'est la participation des croyants à la grâce et à ses fruits. C'est le niveau le plus profond qui nous engage, au fond, chacun d'entre nous, qui que nous soyons, catholiques ou protestants, et ça n'est pas mesurable. Le deuxième niveau est un peu mieux repérable, c'est le niveau doctrinal. Il est bien sûr au service de la communion existentielle, hein, mais les choses se précisent un petit peu plus. Le troisième niveau, qui est le plus clair, qui est le moins important, c'est le niveau des organisations, au fond des institutions. Et curieusement, c'est sur ce troisième niveau que l'Église catholique se bat assez fortement pour récupérer plus ou moins les choses. Alors au fond, il résume, pour les protestants, tout ce qui porte atteinte à la grâce de Dieu, voilà ce qui est séparateur. Pour les catholiques, c'est le mystère du lien du Christ et de l'Église et du rôle de l'Église dans la rédemption. Bon, voilà, je vais en rester là pour l'instant. Je crois que j'ai dit assez de choses. Mais je me pose donc des questions sur la possibilité d'un dialogue qui ne soit pas déjà faussé et qui alors ne déstabilise pas. C'est là que je rejoins la question du prosélytisme et de l'avenir de nos églises évangéliques. Est-ce que pour les générations qui viennent et dont nous sommes responsables, parce que nous sommes responsables, comme nos prédécesseurs l'ont été dans les temps, de transmettre le saint héritage que nous avons reçu, afin que la grâce de Dieu ne soit pas étouffée et que les gens ne soient pas perdus parce que ils sont dans la brume et qu'ils ne connaissent plus la vérité. Alors je me demande si le dialogue pratiqué aujourd'hui par beaucoup d'évangéliques ne contribue pas à entretenir le brouillard et si il ne serait pas plus fructueux pour l'avenir justement de refuser ce dialogue je dirais en disant les raisons, mais évidemment nous serions rejetés dans l'obscurité, nous n'aurions plus part à ce qui se dit et ce qui s'échange sur la place publique, et certains de mes frères évangéliques feront valoir que nous perdons d'un coup les occasions justement d'apporter la saine doctrine, parce que c'est la vérité qui confond l'erreur. Alors je me pose réellement des questions, et je ne le dis pas dans un esprit polémique, ni pour apporter la division, je le dis au contraire parce que je crois que nous sommes les uns et les autres, y compris ceux qui ont pris une option œcuménique, j'espère qu'elle est temporaire, je crois que tout cela cherche aussi à obéir au Seigneur Jésus-Christ et à lui rester fidèle.
J'essaye, je ne voudrais pas, j'ai tellement parlé. Bon, mais excusez-moi. J'essaierai d'être très bref pour répondre à mon cher frère Jacques. Et en prolongement de ce que nous avons échangé hors séance, d'abord à propos du dialogue, ce que j'ai dit vous donne déjà une petite idée de ce que j'ai envie de répondre. Je crois que le dialogue est possible, qu'il est dangereux et difficile, qu'il y a effectivement des pièges cachés, et que le dialogue est possible avec ces deux associations qu'il faut toujours garder à l'esprit. Il faut dissiper tout équivoque
quant à ce que l'on met sous le terme, quant à des concessions non réfléchies qui seraient faites en quelque sorte comme automatiquement par le fait de commencer à dialoguer, et d'autre part, deuxième association, c'est celle du réalisme quant aux ressources dont on dispose, quant au temps qu'on peut dépenser. Il me semble que une fois qu'on a pris en compte ces deux aspects, cela fait partie de notre vocation de répondre aux sollicitations de dialogue, et que d'autre part, si on le refuse, on fait passer un message qui est faux. Par le refus, on proclame un sectarisme qui n'est pas notre position authentique. Une exclusion des autres, une façon de refuser, c'est comme ça que ce sera compris, perçu. L'idée même qu'il puisse y avoir de vrais chrétiens, un refus de la continuité de l'héritage de la chrétienté, ces choses-là seront associées automatiquement à un refus de dialogue et à tort. Donc le message sera un message brouillé et tordu. Donc, c'est pas facile. Il faut peser à chaque élément de la démarche les risques. Il faut essayer de prendre un maximum de précautions, mais ne pas se dérober non plus. Voilà sur le dialogue ce que je voudrais dire. Maintenant, sur quelques autres points qui ont été mentionnés, je ne prétends pas les reprendre tous. En ce qui concerne les expressions du pape Jean-Paul II dans son encyclique, qu'il soit un, il y a deux types différents dans les deux éditions différentes que nous avons en main. C'est qu'il soit un dans la traduction Cerf Flammarion, et c'est que tous soient un dans la traduction Mam Plomb, mais je crois qu'en latin c'est ut unum sint, c'est-à-dire qu'il soit un, simplement. C'est, l'encyclique est publiée en latin. C'est là le texte premier. Je crois qu'il y a une petite nuance que j'apporterai à ce qui a été dit par M. Jacques Richard. Et il me semble que le pape ne parle pas de conversion au dialogue, mais de dialogue de conversion, et que ce n'est pas tout à fait la même chose, qu'il emploie le mot conversion de manière beaucoup plus large, comme le font les catholiques les plus ouverts. Et, alors que pour nous, la conversion concerne un événement particulier, unique et non répété au début de la vie chrétienne, les catholiques, comme les luthériens aussi, parlent très volontiers de conversion quotidienne, de conversion comme une attitude du cœur permanente. Et il me semble que c'est avec cette signification que le pape l'emploie, non seulement à propos de l'écuménisme, mais de manière beaucoup plus générale, comme attitude de la vie spirituelle. Dans le paragraphe qui précède, il me semble qu'il développe ce qu'il entend par dialogue de conversion, ou conversion comme attitude qui convient au dialogue. Il dit « Grâce au dialogue écuménique, nous pouvons parler d'une plus grande maturité de notre prière écuménique commune les uns pour les autres. Cela est rendu possible dans la mesure où le dialogue remplit en même temps le rôle d'un examen de conscience. » Puis alors il rappelle la première épître de Jean, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous abusons nous-mêmes, le sang de Jésus-Christ nous purifie si nous confessons nos péchés. » Et il écrit « Un appel tout aussi radical à reconnaître notre condition de pécheur doit être également l'un des traits caractéristiques de l'esprit dans lequel on aborde le dialogue écuménique. » Si celui-ci ne devenait pas un examen de conscience, en quelque sorte un dialogue des consciences, pourrions-nous compter sur l'assurance que nous communique la même lettre, la première épître de Jean, tous les péchés du monde ont été portés dans le sacrifice salvifique du Christ, et donc aussi ceux qui ont été commis contre l'unité des chrétiens, les péchés des chrétiens, des pasteurs, il s'inclut lui-même, non moins que des fidèles. Même après les nombreux péchés qui ont entraîné les divisions historiques, l'unité des chrétiens est possible à condition que nous soyons humblement conscients d'avoir péché contre l'unité et convaincus de la nécessité de notre conversion. Ce ne sont pas seulement les péchés personnels qui doivent être remis et surmontés, mais aussi les péchés sociaux, pour ainsi dire les structures mêmes du péché, qui ont entraîné, peuvent entraîner la division et la confirmer. Alors, il s'agit bien d'attitude à l'égard de l'unité, mais très largement pris. Et ce n'est pas simplement une conversion à l'idée précise de l'écuménisme. C'est toute l'attitude de suffisance intérieure, d'orgueil institutionnel, de dureté, de méfiance, etc., dont il dit il faut s'en convertir, et tous les jours à nouveau, en quelque sorte.
Oui, bien sûr, j'ai bien compris cela, mais l'Église catholique n'a pas reconnu qu'elle a eu tort de persécuter les enfants de Dieu comme elle l'a fait au temps de la Réformation. S'il y a péché, et s'il y a péché des institutions...
Il me semble qu'il n'en est pas loin, là. Franchement, sur ce point précis que tu mentionnes, Je crois que l'Église catholique ne dira pas qu'elle a eu tort de maintenir comme vraies les choses que le Concile de Trente a affirmées. Quelle est la véritable Église et les points de doctrine. Mais la persécution, je crois qu'elle est prête à dire que c'était un tort. Et le pape Jean-Paul II a rendu visite en hommage à Luther, l'Église luthérienne de Rome. C'est un geste qui me semble vouloir dire qu'il y avait eu tort des pasteurs et des fidèles dans la mise en œuvre persécutrice. Mais voilà, je voulais simplement apporter cette nuance à propos de ces expressions. Comment la conversion est-elle associée au dialogue dans le discours du pape actuel? Alors j'ajoute maintenant quelques mots sur la question du prosélytisme pour dire que c'est là un autre de ces mots piégés qu'on utilise avec équivoque, dont il faut que nous disions clairement le sens quand nous dialoguons. Le mot prosélytisme veut dire normalement, d'après l'usage ancien, l'étymologie, les définitions au dictionnaire, la tentative pour faire des adeptes, pour convaincre quelqu'un de changer d'affiliation idéologique ou religieuse pour adhérer à un groupe nouveau. Et dans ce sens-là, je crois que nous devons revendiquer non seulement le droit, mais le devoir d'affirmer, donc, que nous considérons comme un devoir, de faire du prosélytisme. Mais alors, dans le langage écuménique courant, depuis une vingtaine d'années au moins, 20-30 ans, on l'emploie un peu autrement, et ça fausse un peu. Parfois on dit prosélytisme de mauvais aloi. Alors s'il est de mauvais aloi, bien sûr, on sera d'accord pour dire, ben non. Parfois, il est défini, le mot prosélytisme est défini comme les tentatives de faire des convertis par des moyens indignes, par l'appât d'un gain matériel. C'est ce qu'on appelait autrefois les chrétiens de riz. En Chine, distribution de riz par les missionnaires pour faire des chrétiens. On les appelait ces chrétiens-là des rice Christians, des chrétiens de riz. Faire des chrétiens par des moyens de ce genre, par la pression psychologique, le lavage de cerveau, à la manière des sectes. Alors évidemment, si on définit le prosélytisme comme ça, tout le monde sera d'accord pour le condamner. Enfin, en tout cas parmi nous, je pense, voyez. Tout l'équivoque est là, parce que on définit le prosélytisme comme ça. Alors, des évangéliques signent, d'accord, nous condamnons le prosélytisme, et puis il y a bien des gens qui vont comprendre selon le sens ordinaire, le sens ancien, le sens des dictionnaires, et dire, bon, alors le prosélytisme, comme témoignage en vue de la conversion des autres, ça, alors on s'en abstient. Vous voyez, c'est, me semble-t-il, le piège. Alors, il est sûr que dans le conseil écuménique et aussi chez les écuménistes catholiques en grand nombre, pas universellement, mais je pense en grand nombre, il y a des gens qui condamnent tout prosélytisme, même celui que nous dirions nous de bon aloi, qui trouvent que c'est indigne de toute façon. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de responsable évangélique engagé même dans le dialogue écuménique ou même dans le conseil écuménique qui ait jamais accepter la condamnation du prosélytisme dans ce sens-là, de bon aloi. S'il y a eu des gens qui ont mis leur signature, c'est uniquement avec cette définition décalée en quelque sorte et associée à des moyens indignes du prosélytisme. Je ne pense pas qu'il y ait eu de concession fondamentale, mais ça crée de l'ambiguïté. Ça crée de l'ambiguïté, malheureusement. Enfin, juste un mot d'information, puisque tu l'as demandé, sur le Conseil des Églises chrétiennes en France. Donc, à la demande de l'Église catholique, qui semble en cela d'ailleurs aller contre ses intérêts simplement sociaux, un Conseil des Églises chrétiennes en France a été formé, qui se réunit très rarement, une fois l'an, et qui n'a pas beaucoup de poids, mais enfin, il existe quand même depuis quelques années, qui réunit des représentants avec une présidence tournante de l'Église catholique romaine, de l'Église orthodoxe orientale, orthodoxe surtout russe, russo-grecque, et de la Fédération protestante de France. Et ce conseil publie parfois des déclarations qui portent généralement sur les grands problèmes sociaux ou moraux. Ce sont des textes qui sont relativement anodins, mais disons, cet organe existe, et donc la Fédération protestante y est représentée. Et dans les représentants de la Fédération protestante, il y a des baptistes de la Fédération des Églises baptistes qui appartient à la Fédération protestante de France. Telle est la situation depuis quelques années. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'organisme soit un organisme très, très fortement écuménique. C'est un organisme qui entend favoriser certes le dialogue, mais surtout montrer dans la vie nationale que les chrétiens ont quelque chose à dire. De grands problèmes, l'immigration, des choses de ce genre, me semble-t-il. Le Conseil des Églises chrétiennes en France avait aussi demandé que soit créée une commission d'experts, pour la traduction, une traduction commune des grands symboles de la foi. Le symbole des apôtres, le symbole de Nicée-Constantinople. Alors on a réuni un petit groupe de théologiens pour travailler à une traduction qui serait la même partout. Question en quelque sorte technique, mais il y a parfois des enjeux diplomatiques. Alors j'ai fait partie de cette commission qui a travaillé, qui a abouti d'ailleurs. J'en ai fait partie comme expert, si vous voulez, hein, les gens sachant bien que je ne suis pas dans la Fédération protestante de France, mais ils voulaient aussi avoir un évangélique, et puis donc j'ai pensé que pour un tel travail, je pouvais, vous voyez, ça fait partie, ou tracer les limites hein, de l'engagement. Je pense que pour traduire ces symboles de la foi auxquels je souscris, comme nous tous, qui affirment la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, je pouvais le faire. Alors notre commission, puisque j'en ai fait partie, je peux dire, a travaillé, a rendu son rapport, et puis finalement, la conférence épiscopale a rejeté, en tout cas pour le moment, le fruit de notre travail, ce qui fait qu'il est dans un tiroir, je ne sais pas s'il en sortira quoi que ce soit, mais elle n'a pas été contente. Elle a eu l'impression qu'on empiétait sur ses prérogatives, et puis il y avait une certaine audace par rapport à la tradition catholique. Les théologiens catholiques de notre commission étaient tout à fait favorables, mais ça n'a pas plu à certains évêques, en tout cas. Bon, ça, c'est une petite illustration de ce qui se fait.
Monsieur Michel Patin. En parlant du prosélytisme, juste une demande d'information. En parlant du prosélytisme, j'ai lu dans les feuilles d'information que diffusent les assemblées de Dieu, que les assemblées de Dieu sont en but à de véritables persécutions de la part de l'Église catholique dans les pays d'Amérique du Sud. L'Église catholique qui les accuse justement de faire du prosélytisme outrancier, d'où des tracasseries administratives, des arrestations arbitraires, etc. Enfin, des familles qui sont détruites. Est-ce qu'on a des informations plus précises par l'intermédiaire de nos instances
Jusqu'à des arrestations, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas d'informations moi-même très, très précises.
Ici, il y a des chrétiens en prison.
Mais qu'il y ait souvent l'utilisation du mot de secte pour parler de chrétiens évangéliques, bon, surtout pentecôtistes, ça c'est une chose sûre et c'est un des points que nous avons présenté en quelque sorte prioritairement dans des conversations auxquelles j'ai participé aussi il y a maintenant, oui, pratiquement deux ans. J'ai fait partie, vous voyez, ce dont je vous parle, donc j'en ai une petite expérience. J'ai fait partie d'une petite délégation de l'Alliance évangélique universelle, dialoguant avec des théologiens nommés par le Conseil pour l'unité chrétienne du Vatican. Et nous avons passé une petite semaine dans un couvent à Venise, il y a presque deux ans. Et nous avons débattu. Alors, quant aux techniques de dialogue qu'évoquait M. Richard en citant le pape, vous voyez, c'est rencontré. En fait, nous n'étions pas le même nombre parce que deux ou trois de notre groupe n'avaient pas pu venir, ce qui fait que nous étions moins nombreux que les catholiques en face. Il y avait des exposés préparés à l'avance sur des points dont il fallait débattre, la révélation, la tradition, et des exposés de réponse. Il y avait eu le texte, le premier exposé. Alors, un théologien catholique assez connu, le père Dulles, Avery Dulles, frère d'ailleurs de l'ancien secrétaire d'État des États-Unis, Foster Dulles, pour ceux qui se rappellent. C'est un théologien jésuite maintenant âgé, mais connu. Il avait fait lui un exposé, et moi j'avais la charge de lui répondre. J'ai fait un deuxième exposé de réponse dans notre petit cercle, parce que c'était un huis clos, hein, c'était juste entre nous. C'est ça la technique qui est adoptée, puis conversation ensuite. Et puis alors aussi, conversation libre sur d'autres sujets, et il y avait parmi nous, dans le petit groupe évangélique, donc un latino-américain, et nous avons appuyé sur ce fait que les évangéliques en Amérique latine n'étaient pas traités comme ils le sont en Europe, et que là le mot de secte est souvent employé avec des conséquences, et alors ils nous ont promis qu'ils s'en occuperaient, qu'ils feraient en sorte que ça ne se continue pas. Voilà la façon dont ça se passe concrètement dans de telles rencontres.
Alors, je vais citer ceci. Dans le numéro 45 de l'Unité des chrétiens, de janvier 82, c'est pas récent, en 1979, célébration en janvier, il s'agit de la région du pays de Montbéliard, célébration en janvier d'une fête de la foi assortie d'une déclaration de non-prosélytisme et consultation des communautés protestantes lors de la constitution du nouvel évêché de Belfort-Montbéliard. En 1980, commémoration œcuménique de la confession d'Augsbourg avec présence et lecture d'un message du nouvel évêque de Belfort-Montbéliard, Mgr Le Cronier, ainsi que du pasteur P. Widmer de l'église Ménonite représentant l'Alliance évangélique. Alors, je ne sais pas trop qui a signé cette déclaration de non-prosélytisme, mais elle est un peu inquiétante. Ce qui m'inquiète par rapport à l'écuménisme évangélique que nous souhaitons voir se renforcer, c'est que, au lieu de travailler à ce renforcement, il semble que, je dirais, on aille presque plus loin, ou on aille en tout cas trop loin, dans des actions écuméniques avec des non-évangéliques. Et ça, ça me gêne beaucoup. Et en dépit de ce que tu as dit sur le prosélytisme, dans le deuxième numéro de l'Unité des chrétiens consacrée aux évangéliques, le père Lourmande regrette justement que l'on rebaptise les catholiques. Donc, chaque fois, et si je comprends bien Henri...
Un mot simplement pour dire que cette plainte des catholiques, elle se retrouve du côté des réformés. Et les luthériens, pratiquement identiques.
Oui. Mais enfin, justement, c'est très intéressant. Ce qui est en cause, chaque fois que nous annonçons l'Évangile et que justement nous faisons ce prosélytisme de bon aloi, qui est la chose que le Seigneur nous a confiée, qui fait partie de notre témoignage, les personnes qui rendent témoignage ici, dans notre Église, et qui sont... Qui entrent dans l'Église, un grand nombre d'entre eux viennent du catholicisme. Ils se sont convertis au Seigneur Jésus et à un moment donné, ils demandent à être baptisés. Ils sont donc baptisés, rebaptisés. Mon épouse, par exemple, elle ne fait pas partie de l'Église, mais elle a été rebaptisée. Et dans une conversation avec des amis catholiques, on lui a dit, mais au fond, vous êtes catholique. La question du rebaptême est en cause, pourquoi ? Elle est inévitable. Donc, on nous accusera toujours de faire du prosélytisme de mauvaise aloi. Là où je vois aussi un danger et où je sens qu'on est un peu coincé, c'est par rapport au problème des sectes. Aujourd'hui, les sectes sont dénoncées, il y a tellement d'excès de ce côté-là, du côté des sectes, que nous sommes coincés, nous ne voulons pas passer pour des sectes, bien qu'à l'origine, les chrétiens aient été désignés de ce nom-là. Je crois même que le nom, le sobriquet de chrétien, c'est au fond le sobriquet qu'on a donné. On nous a traité de secte, de secteur. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même emploie ce mot-là. Alors, aujourd'hui, on a tendance à vouloir se rapprocher des églises officielles qui sont reconnues, qui ont pignon sur rue, et ceci pour se mettre à l'abri de retombées désagréables, négatives, qui viendraient de la part des autorités qui veulent endiguer
les sectes, je ne sais pas si vous avez suivi les débats qu'il y a eu à la télévision sur les sectes, mais ça nous fait un peu frémir, et je crois que la question des libertés, de la liberté de conscience, est aussi en jeu là, et que nous devons être attentifs. Père, gardez-vous à droite, et Père, gardez-vous à gauche, il nous a dit ce matin, il me semble que la question se pose vraiment.
Il y a eu une campagne pour ça au moment de la venue du pape et de Clovis et tout ça. Il semble qu'elle n'ait pas très bien marché d'ailleurs. C'était les anticléricaux qui ont lancé ça.
J'ai lu juste une mention dans une revue, donc ce sujet n'est pas tout à fait étranger, bien que j'ai été au Canada à ce moment-là. Mais je peux dire qu'en théologie catholique traditionnelle, c'est impossible.
Impossible.
Le caractère baptismal, comme il est appelé, subsiste à toujours, comme le caractère sacerdotal.
Exactement.
Même les prêtres impies, qui défroqués, ceux qui ont été excommuniés, gardent ce caractère sacerdotal. Le sacrement a là une valeur définitive, donc ils sont toujours prêtres, même s'il est interdit qu'ils célèbrent la messe, même s'ils sont réprouvés, excommuniés, lors de la cérémonie, je ne sais pas si on le dit encore, mais on le disait, on répétait les paroles, tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Donc impossible d'être désacerdotalisé comme d'être débaptisé, normalement, d'après la théologie.
Christian, oui,
c'est une anecdote pour détendre la conscience. Elle n'est pas tendue, non. En regard de l'écuménisme et de l'approche sectaire, l'association de policiers chrétiens qui a été faite à l'occasion de la dernière venue de Billy Graham, l'association de policiers chrétiens évangéliques dans le cadre de la police nationale, à l'heure actuelle nous interrogeons pour intégrer dans notre sigle le mot protestant, accolé à évangélique. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes sous une enquête de la DST et des renseignements généraux pour savoir si nous ne sommes pas une secte. Non, c'est...
Je ne sais pas, mais cela se lie à ce que j'ai dit tout à l'heure, au message faux, trompeur qu'on fait passer si on refuse aussi, d'une certaine façon, de dialoguer quand on est sollicité. Puis alors, en ce qui concerne notre Église, nous devons être d'autant plus prudents que le nom de tabernacle peut très bien faire sectaire. C'est bizarre aux oreilles de la plupart de nos contemporains. En général, on ne sait même plus que le mot tabernacle veut dire une tente, simplement. Donc, notre nom peut suggérer quelque chose de sectaire. Alors, nous avons avantage, je crois, à adopter des contre-mesures.
Oui, Madame Lebert.
Proportion est certainement infime, je n'ai pas de chiffre à donner, mais alors je voudrais signaler que au centre évangélique, 18-19 novembre, c'est ce sujet des sectes qui sera particulièrement étudié. Avec, nous pensons, un député membre de la commission qui a fait le rapport sur les sectes, avec table ronde, des gens qui s'y connaissent, avec le pasteur Maurice Ray aussi pour un message qui concernera ce sujet. Alors, c'est un coup de pub pour le centre évangélique.
Merci. C'est entendu 5 sur 5. Oui, j'ai souhaité reprendre la parole et pour réorienter les échanges. Parce que là, nous avons passé un temps plus ou moins long à parler du dialogue, et ce qui est le dernier point des principes est présenté par Henri Bauchet ce matin. Alors j'aimerais que nous parlions un peu plus du premier principe, travailler à réunir et ce qui est louable, et puis surtout, engageons-nous dans l'écuménisme évangélique. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que lorsque ce week-end a été proposé, c'était dans la perspective de la Confédération d'Églises évangéliques unies. Et nous avons souhaité évidemment connaître un peu plus sur l'écuménisme, et pour justement et nous orienter et dans cette forme d'écuménisme évangélique. Alors, donc j'aimerais donc que nous consacrions quelques instants à cet écuménisme évangélique qui n'est pas encore structuré, et tout comme la Confédération, parce que jusqu'à présent, il s'agit que de réunions, de comités et directeurs, et là depuis 2 ans, il n'y en a pas eu. Alors évidemment, quand on parle d'écuménisme, même si on associe le mot évangélique, et on redoute toujours certains pièges, d'ailleurs, et Jacques l'a dit à plusieurs reprises, et c'est vrai que le mot écuménisme est peut-être, comme on dit, pipé déjà. Et puis, Michel Patin l'a dit aussi, il y a le risque d'arriver à quelque chose de monstrueux, enfin, et de puissant, dans le désir de faire face à d'autres courants. Mais on n'y peut rien en un certain sens, parce que nous vivons malheureusement à une époque où les contrefaçons sont à l'ordre du jour. Et dans l'historique que M. Blocher nous a fait hier, on a vu que les rassemblements de chrétiens, ça a toujours existé dès les premiers temps. Par conséquent, ce n'est pas parce qu'on veut s'engager dans un rassemblement, dans un mouvement écuménique et évangélique, et que forcément, on tombe dans quelque chose de mauvais. Même si, hélas, il y a des contrefaçons. Et puisqu'on a parlé d'apostasie aussi ce matin, et à d'autres reprises aussi, il faut savoir que finalement, l'apostasie contre laquelle la parole de Dieu nous met en garde, est basé ou sera basé finalement surtout sur les contrefaçons. Et contrefaçons de miracles, contrefaçons d'unité, contrefaçons d'église, tout ce que vous voulez. Et Paul l'avait bien dit, que Satan se déguise en ange de lumière. Donc c'est vrai que dès que nous voulons parler d'écuménisme, de rassemblement, on risque d'avoir affaire à des faux. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Et s'il y a des faux, c'est que quelque part il y a de l'authentique. Et je crois que nous devons nous atteler à cela. Parce qu'on ne peut pas démissionner. Et par conséquent, et que pouvons-nous faire? Comment réfléchir pour travailler à réunir ce qui est proche? Comment pouvons-nous nous engager dans l'écuménisme évangélique? Et est-ce que vous avez des idées là-dessus? Je vois que Simon demande la parole. Approchez.
Malheureusement, je n'ai pas de réponse à ta question, mais j'irai plutôt dans le sens de ce que tu as présenté, en disant, en tout cas, moi j'ai l'avantage d'être originaire de l'Afrique, et je dirais un peu pourquoi. Les catholiques, quelles que soient les critiques qu'on peut leur faire, ont un certain nombre de gros avantages sur nous. C'est qu'ils ont, une vision de l'évangélisation du monde. Et ils mettent, et on a parlé hier du pape et de sa démarche et de sa stratégie. On peut la critiquer avec tout ce qu'elle peut avoir comme démarche de récupération, de centralisation. Ils ont une vision d'un monde où, quand on prend un certain nombre de pays de coins du monde, où je prends quand même le cas de l'Afrique noire, où l'islam est un mouvement qui agresse et qui attaque à une vitesse très forte. Et les catholiques, je dirais, sont les seuls aujourd'hui à avoir pris conscience de cela et s'organisent à leur niveau pour contrer l'avancement de l'islam. Et pour le contrer, ils utilisent, heureusement, d'ailleurs par la grâce de Dieu, ils utilisent les armes que nous avons, qui est la distribution de la parole de Dieu, de la Bible en particulier. Et donc, pour aller dans le sens de ce que tu présentais tout à l'heure, pourquoi les chrétiens évangéliques, qui, eux, ont parmi eux des hommes qui ont reçu cette grâce de la part du Seigneur, qui ont la capacité d'encadrer et d'enseigner? Parce que quand on parle des sectes en particulier, certaines d'entre elles ne sont pas forcément des sectes. Vous prenez par exemple à Paris, le nombre d'églises africaines qui foisonnent dans tous les sens, à Paris, sont énormes. Pourquoi, au travers d'un rassemblement de chrétiens évangéliques, ces petites églises ne pourraient pas être encadrées, enseignées? Leurs responsables ne pourraient pas être encadrés. Ce serait une bonne voie d'évangéliser et d'enseigner, et donc de faire connaître davantage l'œuvre de Dieu, de ce que Christ est capable de faire dans le cœur des gens, et donc d'être à la tâche que le Seigneur nous a confiée pour aller dans le sens de ce que Jacques nous a présenté. Donc voilà un peu la modeste remarque que je voulais faire. En tout cas, moi, j'encourage nos responsables à nous conduire dans ce sens.
Eh Mais mon cher Simon, si tu as l'avantage d'être africain, moi j'ai l'avantage d'être antillais et haïtien. Quant à la dernière remarque que tu as faite concernant toutes ces églises africaines et les encadrer et tout cela, et je ne t'apprends rien en te disant que tu sais bien que malheureusement les pasteurs de ces églises sont très jaloux de leur fonction, et tout comme africains ou haïtiens ou antillais, et on préfère avoir son propre petit peuple sur lequel régner, et ce n'est pas facile de les faire entrer et dans un mouvement et d'unité. Et ils trouveront toutes sortes de prétextes pour dire, mais chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe, etc., etc. On ne peut pas marcher avec vous. Et c'est ça le problème. Il y a, monsieur Blucher l'avait dit, il y a des problèmes de personnes aussi. Hein, est-ce qu'on ne va pas, qu'attendons-nous pour faire passer toutes ces choses-là au second plan? Et c'est peut-être que c'est dans ce sens qu'il faut un réveil authentique, c'est-à-dire que le Seigneur nous fasse rentrer dans sa vision. Et non seulement il a donné l'ordre d'annoncer l'évangile, mais il a aussi donné l'ordre de nous aimer les uns les autres. Il a dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, et tout cela, ça fait partie de notre façon d'être témoin et de manifester l'unité. Alors, quand est-ce qu'on va prendre le problème à bras-le-corps et pour considérer la façon d'être chrétien, d'être témoin, d'être disciple dans le sens évangélique, et pour dire au faux mouvement qui existe actuellement, tout cela c'est faux, voilà la vérité, non seulement la vérité que nous prêchons, mais la vérité que nous vivons. C'est cela, après tout. Donc autrement, et ce serait une contrefaçon que de présenter une unité parce qu'on a un titre, par exemple confédération, alors parce qu'on est tous dedans, on est unis, c'est pas vrai. Alors évitons ces contrefaçons, en recherchant un regroupement et puis sans vie, sans union véritable. Alors je crois que c'est cela qu'il faut présenter au monde. Et comment nous marchons, et selon l'esprit, comment nous marchons dans l'unité, et pas seulement en ayant un titre.
Je souhaite reprendre la parole à propos de la Confédération, et puisque tu as soulevé cette question, et de notre appartenance à cette confédération et des relations éventuelles qu'elle pourrait avoir avec la Fédération protestante de France. Les deux associations d'église avec lesquelles nous nous sommes accordés un petit peu, comment il faut dire, pour marcher ensemble, l'Union des Églises Libres et la Fédération des Églises Baptistes font partie maintenant. Les églises libres viennent de rejoindre la Fédération protestante de France, dont les églises baptistes faisaient partie. Et nous avons eu ici, comme pasteurs, des pasteurs venant des églises de la Fédération baptiste. La question que je pose est celle qui touche au pluralisme théologique professé par la Fédération protestante de France, et quant à son rôle de représentant des églises qui font partie de cette fédération. Si nous confirmons notre alliance avec les églises baptistes et les églises libres, est-ce que nous allons entrer à un moment ou à un autre dans la Fédération protestante de France? Est-ce que tous ici envisageraient cela sereinement? Qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence pour nous ou pour l'avenir de nos églises évangéliques? Je pose la question par rapport aux enjeux fondamentaux sur le plan théologique et aussi sur le plan de la pratique. Si des relations de plus en plus fréquentes s'établissent dans la mouvance écuménique avec des églises qui foncent dans cette direction, est-ce que nous avons la liberté de nos mouvements? Est-il aussi facile de sortir d'une confédération que d'y entrer? Je ne sais pas. Je pose des questions. Je ne décide pas des réponses qu'il faut y apporter.
Je ne pense pas qu'il faille agiter l'éventualité d'une entrée dans la Fédération protestante pour ne pas faire la Confédération. Je ne pense pas. Et ce ne serait pas vraiment, j'allais dire, honnête. Vraiment, et au jour d'aujourd'hui, et comme j'ai vécu les choses, et je l'ai dit, il y a une évolution de ma part, et lorsque j'avais assisté aux différents comités et de la Confédération, vraiment, j'étais mal à l'aise, parce que à ce moment-là, on ressentait vraiment l'envie d'avoir un organisme, soit pour faire, il n'y avait pas vraiment ce désir d'une unité à la base pour travailler dans ce sens positif. Et vraiment, et c'est ça qui m'a beaucoup touché, et de la part des collègues pasteurs, à la base. Et vraiment, il y a des choses qui nous rapprochent et nous devons travailler ensemble. Vraiment. Et la question de la Fédération protestante, c'est pas ça qui compte. Bon, maintenant, si on veut agiter ça, bon, c'est sûr, on n'avancera pas. Bon. Et est-il possible d'en sortir? Monsieur Blocher nous a donné plusieurs exemples hier aussi, et comment certains évangéliques se sont retirés. Moi, je crois qu'on a cette liberté. Et en tout cas, et pour le tabernacle, nous avons donné la preuve de la fermeté et de nos principes pendant toutes ces années. On a déjà dialogué avec les autres qui sont très proches de la Fédération protestante. Hein. Donc, je crois que vraiment, nous devons, non pas être téméraires ni fiers, mais savoir que nous avons des convictions et que nous sommes prêts à les garder. Hein. Mais, puisqu'on a parlé d'évangélisation, de mission que le Seigneur nous a confiée, je crois que ce serait dommage de ne pas s'associer avec ces églises qui nous sont proches et avec lesquelles nous avons des choses en commun pour justement accomplir cette mission. Et je crois que nous devons être sincères, avoir cela à l'esprit et non pas le désir tout simplement d'avoir, de faire partie d'un organisme puissant. Et la recherche de la puissance, ça ne doit pas être notre premier but, mais accomplir l'ordre que le Seigneur nous a donné de la communion avec les autres. Voilà, et nous sommes dans le temps de la moisson où il faut évangéliser et il faut que la vérité soit proclamée et ne pas nous laisser museler comme Dieu l'a dit. Et il faut le faire. Voilà en tout cas, et en toute sincérité, honnêteté, les éléments qui me font plaider en faveur de cette association. Bon, maintenant, et si vraiment on devait aboutir à une voie qui ne serait pas du tout selon nos convictions à nous, alors bon, il faudrait en tirer les conséquences. Mais il ne faudrait pas agiter sans cesse, je crois, le fait de...
J'aimerais bien, si notre frère Henri accepte de répondre sur la question du pluralisme théologique de la Fédération protestante de France, je crois que ça...
Déjà, c'est une interrogation.
Oui, je repose la question du pluralisme théologique de la Fédération protestante de France pour savoir ce que notre frère en pense. Je crois que ce serait bon pour un certain nombre d'entre nous d'avoir l'esprit tranquille de ce côté-là. Moi, je le dis franchement devant tout le monde, je suis personnellement opposé au pluralisme théologique, je ne suis certainement pas le seul, et si à travers l'entrée dans la Confédération d'Église évangélique unie, nous allions vers une entrée dans la Fédération protestante de France, je dirais non. Je le dis franchement ici, je dirais non. Donc, je n'agite pas d'épouvantail, et c'est pour moi une crainte réelle. Peut-être que je suis épouvanté par mon ombre, je ne sais pas, mais j'aimerais être tranquillisé.
Avant que M. Blocher prenne la parole, bon, peut-être que je vais trahir un secret, parce que ce n'est même pas encore à l'un de nos conseils. On avait justement pensé, et lorsqu'il s'agira du vote pour la Confédération, que l'on mette clairement ce que signifie pour nous, tabernaclais, l'entrée dans la Confédération. Il y a des choses qui seront posées clairement, et ce que cela signifie pour nous. Donc, je n'en dis pas plus, mais...
Quelques points que j'essaye de bien cibler. D'abord, pour dire par rapport à notre sujet de cet après-midi, que la Fédération protestante de France n'est pas strictement un organe de l'écuménisme. La Fédération protestante de France n'est pas affiliée au Conseil œcuménique des Églises. Bien que le pasteur Marc Bögner ait joué un rôle décisif comme le premier président de la Fédération protestante, ou en tout cas son président le plus fameux, et qu'il ait été en même temps l'un des premiers présidents du Conseil œcuménique des Églises, justement du fait de la présence des baptistes et à l'époque aussi des libristes dans la Fédération protestante, elle n'est jamais devenue, elle, membre du Conseil œcuménique des Églises. C'est un point qu'on peut noter quand même au passage. D'autre part, alors, en ce qui concerne le pluralisme théologique, je pense pouvoir dire que le terme s'applique surtout à des églises qui admettent dans leur sein, dans l'union qu'elles constituent, une grande diversité d'opinions théologiques qui, en fait, refusent le principe de la discipline doctrinale dont nous avons parlé ce matin. Qui ont des confessions de foi, mais les confessions de foi, c'est comme de vieux drapeaux, on fait un salut, mais elles ne sont pas une norme qui ferait exclure ceux qui ne sont plus d'accord. Il y a, au contraire, une sorte de convention, comme quoi même des pasteurs qui prêchent contre la confession de foi sont toujours à leur place, ont toujours le droit d'être là. C'est ça le pluralisme doctrinal. Il caractérise certaines des églises qui font partie de la Fédération protestante de France, et en particulier la plus grosse d'entre elles, l'Église réformée de France. Dans l'Église réformée de France, il y a des évangéliques, il y a aussi des centristes avec des opinions plus ou moins bien dessinées, puis il y a des libéraux relativement extrêmes, peut-être moins que dans d'autres pays encore, mais bon, il y en a aussi. Et en principe, ils ont tous droit de citer. Et des synodes l'ont dit, ils ont tous droit de citer. Donc, le pluralisme est admis comme principe. Pluralisme, c'est-à-dire que plusieurs convictions, même fondamentales, sont admises dans la même union d'Église, qui est l'union des Églises réformées en France. Alors, quant à la Fédération protestante, le problème pour nous, pour moi, et qui fait que moi je ne souhaite pas que nous en fassions partie, c'est qu'au départ, la Fédération protestante était un simple organisme très lâche de représentation pour les pouvoirs publics, pour la société, mais sans prétention théologique, sans prétention de délivrer un message du protestantisme, de représenter une communion spirituelle. Et si la Fédération protestante était restée cela, les églises n'en seraient pas sorties en 1953, et je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème majeur. Une telle association, à cause de sa neutralité en quelque sorte, n'aurait pas vraiment posé de problème. Mais depuis, il y a eu une évolution qui s'est plutôt confirmée vers l'idée que c'est quand même en vue d'un témoignage commun de l'Évangile en France, que c'est l'expression d'une certaine communion, malgré la diversité des églises et la diversité à l'intérieur de certaines églises, celle du pluralisme doctrinal. Et c'est cette prétention plus spirituelle, étant donné le pluralisme, qui me gêne, qui fait que moi je trouve beaucoup préférable de rester en dehors. Ça, c'est une clarification des données telles que je les perçois. Deuxième point, dans les réunions de la Confédération jusqu'à ce jour, je crois pouvoir dire que le point de vue tabernaclé, qui correspond précisément à nos réticences, nos réserves, nos objections, notre refus à l'égard de la Fédération protestante, que ces positions tabernaclaises ont été énoncées avec clarté, ont été entendues de nos frères et sœurs baptistes et libristes, et ne sont pas prises à la légère, et ne sont pas peut-être sans effet sur eux aussi. Ça n'a pas empêché les églises libres, en majorité, de voter un acte de candidature à la Fédération protestante, avec l'idée que les évangéliques pourraient peut-être renverser le poids, renverser disons la proportion au sein de la Fédération protestante et devenir majoritaire. C'est peut-être l'idée de certains, mais nous avons été entendus, et encore à la pastorale du mois d'avril, Monsieur Jean-Charles pourrait en témoigner, j'ai saisi une occasion pour le dire très fortement à propos du thème de l'intercommunion. Donc, si nous sommes dans la Confédération, ça ne peut être pris par personne comme finalement un changement de position à cet égard. nous l'avons dit très net et très fort. Les réformés, ce baptême que nous demandons à des gens qui ont été baptisés petits-enfants chez eux, ça leur reste en travers de la gorge. Hein. Et alors moi ce que j'ai répondu, c'est que le baptême ne nous appartient pas, c'est pas notre possession, c'est un ordre du Seigneur. Qui sommes-nous pour dire, oh ben là l'ordre du Seigneur est suspendu? C'est pas notre autorité. Le Seigneur dit que celui qui croit soit baptisé, c'est-à-dire plongé dans l'eau. Il y a des gens qui ont reçu quelques gouttes alors qu'ils étaient complètement inconscients, petits enfants. Nous ne pouvons pas sérieusement penser que c'est le baptême. Donc, nous disons, ben, Seigneur, demande qu'il y ait un baptême, s'il y a la foi, maintenant, chez la personne devenue adulte. Mais c'est pas nous qui allons décider de clauses de suspension. C'est pas notre bien dont nous ferions une affaire de négociation, vous voyez. Voilà, c'est comme ça que j'ai répondu. Oui. Ben, il a assez bien réagi. Oui. Bon, vous savez, il est très compréhensif, plus intelligent que la plupart, il saisit les choses, M. Bobéron, puis très loyal. Oui.
Mm-hmm. Michel Patin.
Il faut avancer.
Oui. La recherche de l'unité comme une conséquence logique de notre foi et de l'obéissance à ce que le Seigneur souhaite pour nous ses disciples, en plus d'un témoignage puissant et véritable. Donc nous porte naturellement à rechercher des organismes qui en fait ont un but qui est l'évangélisation. Il a été fait allusion à l'Alliance évangélique, il a été fait allusion à la Fédération évangélique de France. Sommes-nous obligés de passer par un intermédiaire qui serait une confédération, ou pouvons-nous adhérer à ces organismes directement et manifester ainsi l'unité avec ceux qui ont le désir de proclamer l'évangile de Jésus-Christ?
Je prolonge, si vous le permettez, ce que Michel dit. Il a mentionné la Fédération évangélique de France, l'Alliance évangélique, il y a l'Union des églises de professants, peut-être que j'oublie encore d'autres, ce sont les principales, qui au fond avaient ou ont le même but, qui est le rassemblement. Enfin, l'écuménisme évangélique, le rassemblement de ceux qui se reconnaissent vraiment dans la même confession de foi. Alors, pourquoi ce quatrième... c'est larron, non, je ne voulais pas utiliser le mot.
Vous voulez répondre, monsieur Jean-Charles? Vous compléterez. Simplement dire que ces différents organismes ne sont pas tout à fait semblables, ils ne se situent pas sur le même plan, et je crois donc qu'il faut saisir quelle est l'originalité de chacun. En ce qui concerne l'Alliance évangélique française, qui est membre de l'Alliance évangélique universelle, elle institue un lien qui reste assez lâche entre les chrétiens évangéliques qui, un peu partout, y compris dans les églises pluralistes. Donc là, ils adhèrent à titre individuel, ou éventuellement une paroisse, mais ce n'est pas l'union d'église qui peut adhérer. Et c'est un rassemblement qui est plus de personnes physiques, que d'églises ou de simili-églises. En ce qui concerne la Fédération évangélique de France, c'est pratiquement le contraire. En pratique, ce n'est pas seulement les statuts. La Fédération évangélique de France s'est voulue un peu comme le pendant de la Fédération protestante de France pour les évangéliques. Pour les évangéliques qui n'étaient pas dans la Fédération protestante et qui avaient besoin d'une représentation auprès des pouvoirs publics et en quelque sorte d'une expression de leur identité. Là, c'est plutôt donc fédération d'église et avec une ambition assez large, mais assez semblable à celle de la Fédération protestante de son côté. L'Association des églises de professants, elle, est une association d'un certain type d'église évangélique. Elle écarte les réformés. C'est juste les églises
qui ressemblent aux églises baptistes, même s'ils ne sont pas seulement les baptistes. Il y a des églises dites de professants où il faut faire une profession de foi personnelle pour être considéré comme membre. Les églises libres, les églises méthodistes, les églises ménonites, les églises baptistes, etc. Et cette association des églises de professants, donc, rassemble des gens qui sont plus proches que ceux qui sont dans les autres. Le lien est un peu plus serré. Mais le problème a été que, en partie à cause des contraintes du ministère, et puis à cause de défauts que nous avons, nous, chrétiens évangéliques professants, elle a fait relativement peu de progrès. Elle a été capable de faire certaines choses de belle qualité, par exemple les cahiers pour l'école du dimanche, mais somme toute, dans ses années d'existence, elle n'a pas produit tellement. Il y a les réflexes individualistes, chacun s'occupe de ses affaires, n'a pas le temps. Et alors, au sein de l'association des églises de professants, les églises qui sont encore plus proches, les églises qui sont vraiment là, de même sorte, de même type, qui fonctionnent de la même façon, se sont dit, ah, nous pourrions peut-être aller plus loin, faire mieux, et avoir un lien plus étroit dans le sein, en quelque sorte, de l'association des églises de professants. Ce sont les églises Baptiste Libris et le Tabernacle. Parce que là, nous sommes extrêmement proches. Et comme je l'ai dit, à preuve, voir nos pasteurs successifs. Vraiment, c'est exactement le même type. Et c'est pour ça que cette confédération s'est formée. Essentiellement parce qu'il y a eu une déception devant la lenteur du travail de l'association des églises de professants, qui pourtant sont plus proches déjà que celles qui sont réunies dans l'Alliance évangélique. Et du coup, certains ont dit, mais voilà, nous sommes si proches, écoutez, il n'y a vraiment pratiquement aucune différence. Alors pourquoi avoir deux commissions jeunesse, faire des camps, des brochures séparées, pourquoi avoir deux commissions des ministères pour examiner les jeunes candidats? Rapprochons-nous, nous sommes vraiment si proches. Il s'agit de traduire au plan de l'organisation, de certains services au moins, la proximité réelle qui est entre nous. C'était ça l'idée de la Confédération des Églises évangéliques unies.
Oui, je crois que tout a été dit clairement. Et à ma façon, j'aurais dit tout simplement qu'il ne s'agit pas d'une association simplement sur le point de vue doctrinal, mais plutôt sur la vie ecclésiale et comment on est proche et vivons cette vie ecclésiale de façon plus visible ensemble. C'était surtout ça. Non, on sait où l'on veut aller, mais les modalités ne sont pas définies.
Ce que l'on saura, c'est qu'on mettra pratiquement noir sur blanc ce que l'on fait, c'est-à-dire au niveau pastoral, nos pasteurs et pasteurs viennent de la Fédération Baptiste, donc ce sera plus administratif, mais dans les faits, ce sera la même chose. Un exemple, par exemple.
J'espère que dans les faits, ce sera encore plus marqué. Non, pas encore. Parce que ça fait maintenant deux ans qu'on ne s'est pas réunis en dehors de la pastorale.
Donc j'ai envie de rappeler quand même une chose qui ne me semble pas sans importance, que l'existence séparée de notre Église est l'effet d'une crise historique déterminée dont les éléments ne semblent plus présents aujourd'hui. Nous avons fait partie de la même union que la Fédération des Églises évangéliques baptistes. Mais parce que des ferments de libéralisme s'étaient manifestés, notre Église en est sortie. Contrairement à ce qu'on pouvait craindre, ces ferments de libéralisme ont été éliminés dans la suite du temps. Et la Fédération est devenue pratiquement dans son entier évangélique, ce qu'à l'époque elle n'était pas tout à fait, et on pouvait craindre que la situation empire. Elle s'est améliorée et sa direction est évangélique. J'ai participé maintenant en tant que doyen de la faculté invité à toute une série de congrès de la Fédération des Églises Baptistes. Je vous assure, je n'ai rien entendu de non évangélique depuis des années et des années maintenant. Mais autrefois, il y a eu une crise. Je suis absolument persuadé que nous serions dedans, nous n'aurions absolument pas les raisons de 1920 pour sortir, c'est sûr. Donc on peut rappeler ça, c'est un élément.
Parce que... Non, pourtant les notes, en tout cas l'exposé de... Non, justement. Parce que l'exposé de M. Blocher dans ce sens, ce matin, a été net, et surtout, et le troisième point, là, quand ce concerne la sagesse requise, et puis le second point, surtout, lorsqu'il a dit qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres considérations, et dans certains cas, il faut se séparer de tout cela. Donc c'est... Je parlais de l'église locale, justement, que pour moi, l'église locale, ce n'est pas seulement le fait d'être sous un même toit. Et maintenant je parle, il faut bien que tu écoutes, parce qu'après tu vas dire que... Non, j'ai dit, l'église locale, ce n'est pas seulement le fait d'être sous un même toit, ni même adhérer à la même confession de foi, et puis dire que je suis du bon côté. Encore faut-il vivre ce qu'on a décidé, ce qu'on a accepté. Donc il y a une discipline et dans laquelle il faut entrer librement, et se soumettre les uns aux autres en vue de la réalisation de ce qu'on a accepté, et confession de foi et autres, c'est cela et l'église locale, parce que on le sait bien dans beaucoup d'églises, et c'est pas seulement pour le tabernacle que je parle, on se contente de dire bon, je suis dans cette église, je suis du bon côté, ça y est, alléluia. Non, il ne s'agit pas et de devenir membre d'une église et d'être sous le toit, mais il faut accepter une certaine discipline. Et j'ai bien dit que la discipline, et ce n'est pas seulement le fait de sanctionner, ça aussi ça existe, mais la discipline, c'est se soumettre à la règle du Seigneur pour cette église. Donc se soumettre les uns les autres. Et l'exemple de ce matin, d'un commun accord pour porter la même chose et bien coordonner le mouvement, tout cela, c'est vivre ensemble. Alors j'ai dit donc, en partant de cet exemple, si nous voulons réaliser un vrai écuménisme, non pas seulement une sorte de contrefaçon, avoir un nom, eh bien, dans l'église locale, nous devons apprendre cela, apprendre la discipline à vivre ensemble, de façon, et avec les autres églises, nous puissions aussi et manifester cette vie fraternelle, cette communion fraternelle, et non pas seulement se contenter d'appartenir à un gros organisme ensemble. Et ça ne veut rien dire. Voilà, je ne sais pas si je suis assez clair. Il faut... Mais là, on parle de la confédération et de l'écuméniste évangélique. Mais oui, et il n'est pas question d'adhérer à l'Église réformée. On n'a jamais dit ça.
On a dit que l'Église baptiste ce matin découlait de la réforme de l'Église réformée. C'est ça que M. Bouchier a dit.
Ah oui. Disons, c'est hier du point de vue historique que j'ai dit que les baptistes sortaient du tronc réformé au XVIIe siècle. C'était des réformés évangéliques, c'est-à-dire respectueux de la Bible, et ils se sont rendus compte que le baptême des petits-enfants n'était pas biblique, alors c'est comme ça que le baptisme a commencé dans les années 1610 et 1640 d'autre part. Mademoiselle Cobria.
D'autres précisions. Oui.
Vous aviez tout à l'heure demandé la parole, je crois.
Excusez-moi. Approchez-vous du micro.
Je vais peut-être vous retarder. J'aurais aimé personnellement avoir des éclaircissements sur le chapitre numéro 3, où vous nous expliquez que parmi les ingrédients de la sagesse, il faut refuser la loi du tout ou rien, qu'il y a des questions sur lesquelles on doit obligatoirement se mettre d'accord. Si on est en désaccord, on sort. Et puis, l'autre point, c'était les questions sur lesquelles on pouvait avoir un relatif désaccord ou un relatif accord. Et moi, j'étais très troublée parce qu'il n'y a pas d'appui sur la parole du Seigneur. Et je ne vois pas si vous pouvez nous dire pour vous quelles sont ces questions plus ou moins importantes. Et je pense que je ne sais pas si on peut s'appuyer sur la parole de Dieu, là. Merci.
Je vais essayer de répondre brièvement puisque nous avions failli finir.
Donc, pour dire que je pense qu'il y a un appui. J'ai reconnu qu'il n'était pas très, très, très large, très circonstancié, en expliquant pourquoi dans le Nouveau Testament, mais je pense qu'il y a un appui dans cette manière de distinguer l'importance des points de la loi de Dieu par Jésus lui-même et par la gradation que Paul enseigne à propos de la discipline. Alors, maintenant, j'illustre et puis je parle de la question des critères. Illustration. Points sur lesquels il est indispensable de s'accorder pour avancer ensemble, je dirais, le moins du monde. La divinité de Jésus-Christ. La résurrection comme un fait historique. Si on n'est pas d'accord là-dessus, on peut occasionnellement, pour des choses un peu superficielles en quelque sorte, s'accorder pour revendiquer la liberté religieuse devant les autorités, par exemple, ça peut être possible, mais on ne peut pas avoir une communion spirituelle. Pas du tout. Et c'est malheureusement parce que dans l'Église réformée de France aujourd'hui, il y a des gens qui nient la divinité de Jésus-Christ, et donc ils sont aussi dans la Fédération protestante, que j'ai les scrupules que j'ai évoqués. Deuxième catégorie de questions, des questions assez importantes, mais qui n'empêchent pas la communion, qui empêchent de former une seule Église. Bon, la question du baptême. Là, c'est la question typique pour moi. Cette question-là est une question qui n'empêche pas vraiment de collaborer sur beaucoup de points, mais quand même, pour former une même Église, il faut bien être d'accord sur le fait d'être ou non baptisé. Nous, pour nous, il n'y a jamais de rebaptême chez nous. Simplement, on appelle à tort baptême ce rite d'invention humaine qui a été perpétré sur de petits bébés. Alors, s'ils disent « je suis baptisé », je peux donc être membre de notre Église, donc ils sont non, notre conviction c'est que c'est pas le cas. Mais en même temps, ce n'est pas une question primordiale. Ce n'est pas la substance de l'Évangile qui est attaquée, et donc nous pouvons collaborer et avoir une véritable communion avec des évangéliques qui croient vraiment à la substance de l'Évangile, mais qui, sur le baptême, font cette erreur. Troisième type de questions, celles sur lesquelles il faut passer et pour lesquelles on peut être ensemble dans la même Église et vraiment collaborer, des questions donc réellement secondaires, troisième ou quatrième rang. Bon, je pense qu'il y a la question d'interprétation des prophéties sur certains points. Pas le retour de Jésus-Christ, ça, bien sûr, il faut le croire. Mais la question du millénium. Nous ne sommes pas tous d'accord forcément au tabernacle. L'enlèvement de l'Église, à quel moment, au milieu de la tribulation, avant la tribulation, après la tribulation, sont des questions sur lesquelles, à mon avis, il ne faut pas se diviser. Et puis une question qui, alors, est importante, mais qui pourtant, à mon avis, ne doit pas être l'occasion d'une division. Bon, il faut se supporter mutuellement. Et je dirais pourquoi il me semble qu'il faut, malgré son importance, accepter cela. L'opposition entre calvinistes et anti-calvinistes. Ceux qui croient à une prédestination absolue du Seigneur, et ceux qui disent « Ah non, l'homme reste libre indépendamment du Seigneur pour dire oui ou non. » Ce sont deux positions, et c'est important, je ne peux pas dire que ce n'est pas important. Et moi j'ai une conviction très forte, et j'ai la prêche, de la prédestination souveraine de Dieu, que l'homme n'a pas d'indépendance par rapport à Dieu. Mais les deux positions sont quand même tolérées dans notre Église. Ma grand-mère n'était pas calviniste. Je n'aurais pas été d'accord avec elle là-dessus. Donc, il y a eu dans l'Église des positions diverses. Je pense que si on doit se tolérer sur cette question, c'est parce qu'elle est difficile. Et que finalement, dans la pratique, ça n'a pas autant de conséquences qu'on pourrait penser. C'est une question pour laquelle il faut être capable de remettre en cause des notions que d'habitude, on ne remet pas sous son regard critique. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la détermination? Alors, à cause de cette difficulté, je crois que nous avons à nous tolérer mutuellement. Et puis les conséquences pratiques, heureusement, elles ne sont pas aussi désastreuses qu'on pourrait croire. Pour un calviniste, il est tout à fait illogique que quelqu'un prie pour la conversion d'un ami, s'il ne croit pas à la prédestination. Parce que s'il demande à Dieu la conversion de son ami, et puis qu'il dit en même temps que la conversion de cet ami est tout à fait indépendante de l'action de Dieu, que c'est cet ami qui, indépendamment de l'action de Dieu, va dire oui ou non, pourquoi le demander à Dieu, puisque Dieu a choisi de se lier les mains? Alors,
Donc pour le calviniste, celui qui n'est pas calviniste, on dit arminien, est illogique quand il prie. Mais il voit bien qu'il prie en fait. Et heureusement. Inversement, l'arminien considère que le calviniste est illogique quand il évangélise. Parce qu'il dit, puisque Dieu a tout décidé, pourquoi évangéliser? Mais il voit bien que le calviniste évangélise. Donc, vous voyez, par une bienheureuse inconséquence, cette grande différence de doctrine ne porte pas les fruits pratiques qu'on pourrait attendre. Vous voyez, je présente les choses des deux côtés. Alors, à cause de ça, je dis, tolérons-nous dans la même église. Autrefois, on s'est divisé pour ce genre de choses. Au temps de la réforme, on se divisait pour ça. Mais je ne pense pas que ce soit bien de se diviser pour ça. Alors la grande difficulté, c'est de savoir quels critères. Je dis je ne crois pas, mais à partir de quoi? C'est pas juste mon humeur, mon intuition, hein, ça suffirait pas. Alors j'ai proposé 5 critères pour essayer de donner un peu de poids à la détermination de l'importance d'un sujet, pour le classer par premier rang, deuxième rang, troisième rang, etc. Alors je n'entre pas dans le détail parce que c'est vraiment pas possible, mais c'est cette proposition-là que j'avais présentée au congrès de Lausanne en 1974. Au congrès donc, qui a donné le mouvement de Lausanne après. C'était mon sujet et j'avais proposé cela. Et ça va peut-être être publié en français. C'est accessible en publication anglaise, mais en français ça pourrait être publié dans les mois qui viennent peut-être. J'en parlais avec le professeur Buchold il y a 2 jours, alors c'est possible que... Mais voilà, vous voyez comment... Comment se présente donc le problème soulevé?
J'attends de répondre, mais je crois qu'il nous avait dit qu'il y avait 3 mouvements. Hein. Il y a aussi l'écuménisme catholique, hein. Et ensuite le Conseil des Églises, le Conseil, et en troisième lieu l'écuménisme évangélique.
C'est ça le point qu'il faut élucider. Je crois que formellement il n'y en a pas. C'est-à-dire que dans les instances, soit le Comité de Lausanne, soit l'Alliance évangélique universelle, il n'y a pas de membres catholiques enregistrés. Seulement, de fait, c'est pour ça que votre question est importante et intéressante, de fait, comme je l'ai dit aussi, dans l'Église catholique aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont très proches de nous. En général, ce sont ceux qui ont été touchés par le renouveau, dit charismatique, mais souvent ils sont, je dirais, moins charismatiques que les charismatiques protestants, ils ont moins de différences avec nous sur ce plan. Et donc ils sont, on voit très bien que ce qu'ils appellent leur expérience charismatique, c'est la nouvelle naissance. Ils ont des témoignages, j'en ai lu, qui sont exactement comme les témoignages que nous publions des membres qui se convertissent. Parmi nous, comme nous sommes venus au Seigneur. Alors il y a des gens donc qui sont très proches, et il y a des rencontres, il y a des réunions, il y a des prières. Et donc la question que vous soulevez me semble concerner spécialement ces catholiques qui ne sont pas, à ma connaissance, formellement membres de l'Alliance évangélique universelle ou du mouvement de Lausanne, mais qui, c'est vrai, peuvent se trouver dans les mêmes réunions et prier. Et alors, quelle est l'attitude? Moi, j'avoue ne pas comprendre exactement comment ils peuvent rester dans l'Église catholique. Ça, c'est le premier point. Je ne le comprends pas. Pour m'aider un peu à le comprendre... Il y a cette considération-là, je vous la passe parce que ça aide un petit peu. En tout cas, ça m'aide, ça vous aidera peut-être un petit peu. Pour beaucoup de catholiques, l'Église, c'est comme la famille naturelle. On est catholique, on est dans la famille, et alors on peut très bien ne pas être d'accord du tout, adopter une autre voie, mais on reste toujours dans la famille. Quoi. Ça va de soi. Ils n'ont pas une idée de l'Église comme nous, ou voilà cette Église parce qu'on a la conviction de la part de Dieu. Pour eux, voilà, on est dans l'Église, on y est, on a le droit d'y être, et puis on est en désaccord avec la pape, on est en désaccord avec... Mais ça fait rien, quoi. On obéit au Seigneur, tout en étant en désaccord avec le pape, et on reste dans la famille, qui est l'Église. Je crois que c'est un peu comme ça, au moins un peu, qu'ils vivent la chose, mais là, j'ai du mal à le comprendre. Hein. En même temps, je constate qu'ils sont très proches de nous. Et je ne refuse pas de prier avec eux. Je dis franchement, je ne veux pas refuser de prier avec eux. Je sens qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils ont une relation avec le Seigneur. Et je trouverais indigne de ne pas prier avec eux s'ils le souhaitent. En même temps, j'espère qu'ils iront plus loin, qu'ils seront plus lucides. C'est vrai que ça pose un problème. Et là où ça pose un problème, je dirais plus corsé, parce que prier avec eux de manière privée, bon, pas de problème. Mais s'il y a un orateur, s'il y a un prédicateur, de cette tendance. Alors, est-ce qu'on va l'inviter, est-ce qu'on ne va pas l'inviter, etc. Là, ça devient, vous voyez, plus institutionnel déjà, et le problème devient plus difficile. Je crois que nous aurions, à conseil de l'Église du Tabernacle, de la peine à admettre. Mais nous en débattrions, parce que même là, ce n'est pas tellement évident, tant la proximité spirituelle est réelle. Je crois qu'on ne doit pas la nier. Voilà comment je suis porté à vous répondre, mais en ce qui concerne les instances, en tout cas Alliance évangélique, mouvement de Lausanne, je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas de catholique dedans.
Madame Maïté a demandé la parole.